Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Stéphanie Jiquel est une sportive de l'extrême. Elle a notamment traversé l'Antarctique via le pôle Sud, une expédition qui a duré 74 jours, mais aussi pris part au World Marathon Challenge en 2019, une course qui consiste à parcourir 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents. Ses sensations sur ces deux défis, ses préparations, mais surtout sa vision du monde après ses expériences, tout ça c'est maintenant dans Interview Sport. Interview Sport, à la rencontre du monde sportif. Bonjour Stéphanie Jiquel, je te souhaite la bienvenue sur le podcast.
Bonjour Kylian, merci.
Est-ce que tu pourrais te présenter aux éditeurs s'il te plaît ?
Je suis sportive de l'extrême. Pourquoi sportive de l'extrême ? Parce que j'évolue dans deux environnements qui ont un lien avec l'extrême. D'une part, je suis exploratrice, je réalise des expéditions engagées principalement en Arctique et en Antarctique, donc dans des milieux très froids. Et puis par ailleurs, je suis sportive de haut niveau, membre de l'équipe de France d'athlétisme, spécialiste en course d'ultra-fond. Donc là, l'extrême, pourquoi ? Parce que ce sont des distances très longues, donc c'est l'extrême dans la façon dont on met à rude épreuve son corps sur des distances qui sont supérieures à 200 km. Je cours par exemple 240 km en 24 heures. C'est ce que j'ai fait lors des derniers championnats du monde en 2019.
On va en venir un peu plus tard dans l'épisode. Est-ce que l'endurance a toujours été quelque chose qui t'a passionné pendant ton enfance ?
L'endurance, oui. Après, il faut savoir que mon objectif quand j'étais petite, c'était de voyager. C'était vraiment un rêve. J'ai grandi dans une famille très éloignée de l'univers du sport aventure et du sport de haut niveau. Je ne voyageais pas et mon rêve, c'était vraiment de découvrir le monde, de voyager. Et donc, j'ai mis en œuvre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir m'émanciper et vivre ce rêve. Donc, j'ai commencé par des études parce que je ne voyais pas d'autres moyens pour parvenir à mon rêve. Donc j'ai fait une école de commerce et puis petit à petit j'ai commencé à faire des road trips, d'abord sans aucun moyen financier, puis ensuite des expéditions avec des sponsors, et progressivement, à force de faire des expéditions au long cours, je me suis rendu compte que j'aimais l'endurance et je suis allée progressivement vers le sport de haut niveau, en particulier l'ultra-fond.
Donc l'ultra-fond, ça a été le premier sport que tu as pratiqué ?
Je faisais beaucoup de sport quand j'étais petite, mais absolument pas en club, puisque j'ai évolué dans un environnement qui n'avait rien à voir avec le sport, qui était très éloigné au monde du sport. J'étais toujours à l'extérieur. J'aimais beaucoup découvrir, j'aimais courir. J'aimais aussi en particulier la gymnastique et le roller. Et j'essayais toujours de perfectionner le geste. Ce que j'aime, c'est le beau geste. Et dès qu'on nous expliquait un geste à l'école, je pouvais mettre des heures pour essayer de le refaire chez moi toute seule. A posteriori, je me rends compte que je faisais beaucoup de sport, mais à l'époque, je ne mettais pas le terme de sport dans cette activité. Pour moi, c'était juste un jeu et c'était faire les choses bien. Et je me rends compte a posteriori que je faisais probablement autant de sport que si j'avais été dans un club d'athlétisme ou dans une autre discipline.
J'aimerais qu'on revienne plus précisément sur quelques-uns de tes faits marquants dont tu as déjà un peu abordé, en commençant par l'aventure polaire. Comment et pourquoi avoir voulu traverser l'Antarctique via le pôle Sud ?
Alors, j'ai fait plusieurs expéditions en Arctique et en Antarctique. En Antarctique, j'y suis allée à plusieurs reprises. Et il y a quelques années, maintenant ça fait bientôt 10 ans, j'ai eu ce rêve fou. Vraiment, je le considérais comme fou quand je l'ai eu, de parcourir plus de 2000 km à travers l'Antarctique. Je crois que c'est venu avec le temps progressivement parce que j'ai découvert d'abord les grands espaces chauds, les déserts plutôt chauds. Et je me suis rendu compte que j'aimais l'immensité, j'aimais énormément les déserts, quelque chose auquel on est beaucoup moins habitué en France, mais c'est la rencontre avec ces lieux qui m'a permis de prendre conscience que j'aimais ces lieux-là. Et puis progressivement, je suis allée vers le froid parce que j'aime le blanc, parce que j'aime le froid, parce que j'aime l'immensité, parce que j'aime ces lieux aussi où il n'y a pas de faune, pas de flore. Et c'est très marquant en fait, parce qu'on a l'impression d'être à l'origine du monde, à l'origine de la Terre. Et c'est ça qui est particulièrement marquant au cœur de l'Antarctique. Et donc je suis allée une première fois sur les côtes du continent antarctique et là j'ai eu cette idée complètement folle d'aller plus loin parce que ça me donnait envie, enfin ces images-là me donnait envie de voir ce qu'il y avait au cœur du continent. C'est-à-dire que je ne pouvais pas m'arrêter aux côtes. Tout le long des côtes du continent antarctique, il y a des montagnes. Ça paraît très, très, très austère, très mystérieux. Et en même temps, il y a une forme d'envie, une forme de curiosité et puis en même temps une forme de peur. Donc il y a tous ces sentiments que l'on ressent quand on est sur les côtes du continent antarctique. On sent que c'est un continent qui est hostile pour l'homme. Et ça m'a donné envie en fait. J'avais envie de voir ce qu'il y avait derrière ces montagnes. Et aussi j'ai lu beaucoup d'ouvrages d'explorateurs polaires. Et ces ouvrages m'ont donné envie aussi de vivre ce que les explorateurs polaires avaient vécu, savoir ce dont ils parlaient quand ils parlaient de l'immensité, de la beauté de l'Antarctique, mais aussi de la faim, du froid. Je trouvais qu'on ne pouvait pas vraiment se rendre compte de ce qu'ils avaient pu vivre uniquement en lisant ces livres. Il fallait vraiment aller sur le terrain. Quelques années plus tard, j'ai écrit moi aussi et je me suis rendu compte de la difficulté de faire partager aux autres ce qu'on peut vivre dans ces contrées, surtout quand on y passe plusieurs mois, et ça a été le cas pour l'Antarctique puisque j'y ai passé 74 jours, donc dans le grand froid. Et c'est tout ça qui m'a donné envie d'aller là-bas. Après, il faut savoir que c'est très progressif, c'est-à-dire que c'est un cheminement. À un moment donné, j'ai commencé par les régions polaires du Nord, et puis j'ai rencontré des explorateurs, j'ai rencontré des aventuriers, j'ai commencé à passer beaucoup de temps au Svalbard pour m'entraîner, en Norvège, aussi dans le Vercors, et donc de fil en aiguille, on finit par mieux appréhender un univers qui était beaucoup plus inconnu quand on a l'idée, mais au fur et à mesure de la progression, et c'est vrai dans tout chemin d'aventure, au fur et à mesure de notre avancée dans ce chemin, on commence à maîtriser les codes et finalement à se sentir mieux. Et là, on se sent capable de repousser des limites. Et c'est vrai aussi dans le sport de haut niveau. Quand on cherche à atteindre des records, en général, c'est après un certain nombre d'étapes que l'on se sent beaucoup plus capable d'aller repousser ses limites et atteindre, pourquoi pas, un jour des records.
Et est-ce que tu lisais, est-ce que tu entendais, est-ce que tu l'as ressenti une fois sur place?
Je l'ai senti surtout que c'était ce que l'on vit est bien plus fort que ce que l'on peut écrire. Je pense qu'il n'y a pas de terme. Et c'est bien l'intuition que j'avais quand je lisais ces ouvrages, notamment quand les explorateurs parlaient de la faim au ventre. C'est quelque chose que l'on peut difficilement décrire. En fait, c'est vraiment une sensation qu'il faut vivre. Le froid aussi, le froid intense, le fait que le corps finit par s'adapter au froid. On peut avoir l'impression qu'en moins 20, en moins 30 degrés, c'est très froid et que l'être humain ne peut pas résister. En réalité, quand on reste dans ces régions pendant plusieurs semaines, que l'on dort sous tente, que l'on fait un effort intense, là on parle de 70 heures d'effort par semaine pendant près de 3 mois quand j'ai parcouru plus de 2000 km à travers l'Antarctique, on finit par s'adapter aussi à ces températures au point qu'on a très chaud ensuite quand il fait zéro. Donc c'est aussi une capacité d'adaptation dont on prend conscience, et je crois qu'on en prend conscience quand on vit les choses. Et c'est pourquoi ça peut être intéressant parfois de refermer les livres et d'aller vivre soi-même aussi les expériences. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pour l'aventure polaire, et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que c'était absolument intense. Et je crois que je comprends aussi ce qu'ont voulu dire les explorateurs à travers les lignes de leurs écrits.
Et tu parles d'adaptation du corps. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement pour y aller et être déjà un peu adapté?
Ce qui est important, c'est de s'entraîner dans le froid. Donc je me suis régulièrement entraînée en Norvège et au Svalbard. Au Svalbard, au mois de mars-avril, il fait moins 30, moins 35 degrés. Donc c'est plutôt intéressant. Après, il faut savoir qu'au Svalbard, il y a beaucoup d'humidité. Sur un continent comme le continent antarctique, c'est un continent qui est très sec. Donc ça, c'est une particularité. Il faut savoir qu'on confond souvent les régions polaires du Nord et les régions polaires du Sud. Enfin, on a tendance à penser qu'elles sont absolument identiques. C'est très différent puisque dans le Nord, on est sur une banquise, principalement quand on se retrouve autour du pôle Nord géographique. Et j'ai eu l'occasion d'aller au pôle Nord et on est sur la banquise. Donc là, il fait plutôt en général moins 40, moins 45. Par contre, quand on est sur le continent antarctique, on est sur un véritable continent, une calotte glaciaire. Donc les conditions même de progression n'ont absolument rien à voir. On est confronté à des crevasses alors qu'au nord on est plutôt confronté à des crêtes de compression. Au nord on a beaucoup plus de faune, on en a pas au sud. Et au sud on est aussi généralement confronté à des vents catabatiques bien plus violents. Donc c'est quand même assez différent. Mais ça vaut le coup quand même de s'entraîner au Svalbard aussi parce que c'est proche de chez nous. Sinon beaucoup d'entraînement en chambre froide et aussi en cryothérapie donc à l'INSEP. J'ai l'occasion d'y aller régulièrement. Il faut passer des heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures de sortie longue en chambre froide. En chambre froide, il fait en général moins 25 degrés. Quand on allume les ventilos, il fait moins 30 degrés. Sur le terrain, j'ai eu des températures jusqu'à moins 50 degrés. Je ne les ai pas eues au début de l'expédition, donc mon corps a eu le temps de s'adapter. On s'acclimate aussi durant la première semaine d'expédition, la première semaine à les capitales. Maintenant, on ne peut pas se passer des entraînements dans le froid en amont lorsque l'on réalise d'autres expéditions, aussi des expéditions plus courtes, parce qu'il faut apprendre à utiliser le matériel dans le froid. Il faut aussi savoir s'équiper, et des équipements qui vont très bien pour un explorateur n'iront probablement pas pour un autre. Donc il faut choisir ce qui nous convient. Les différentes couches de gants, les différentes couches de laine mérino, de veste Gore-Tex, de doudoune, tout ça, enfin, il faut savoir qu'il faut aussi pouvoir marcher, il faut pouvoir faire toutes les manipulations, tout cela très rapidement. Avoir un traîneau qui est extrêmement bien rangé, parce que quand vous vous arrêtez toutes les heures pour vous hydrater et manger, si le traîneau est en désordre, c'est du temps de perdu, donc un risque d'hypothermie encore plus grand. Donc il y a des manipulations qu'on ne peut apprendre que sur le terrain, et c'est pourquoi il faut passer du temps dans le froid, et on finit par s'adapter en fait. Et c'est vraiment une question d'expérience, exactement comme le sport de haut niveau. À force de répéter, à force de répétition, à force d'entraînement, on est capable d'adapter son corps à une fonction bien précise, et donc on est capable de réaliser des choses qui peuvent paraître totalement surhumaines quand on ne pratique pas le sport en question.
Et ces expéditions, tu as dit qu'il y avait un traîneau parce que tu es en totale autonomie. Le traîneau, il pèse combien? Il y a quoi dedans exactement?
Alors le traîneau, en général, sur une expédition, enfin sur 3 semaines d'autonomie, 3-4 semaines d'autonomie, il pèse 60-65 kilos. Donc on porte la tente, on porte le réchaud, on porte l'alimentation. En général, c'est 1,2 kilos de nourriture et d'essence pour son réchaud par jour. C'est donc la nourriture qui pèse le plus lourd. Puis on a aussi du matériel de navigation, du matériel de communication, des panneaux solaires aussi qui peuvent être plus ou moins lourds en fonction de la durée de l'expédition, de la quantité de matériel à recharger. Mais après, on ne prend pas de superflu, donc on essaye de faire vraiment au plus juste. On peut même être amené parfois à couper les étiquettes des vêtements, à couper le manche de sa brosse à dents. Enfin, tout ce qui est superflu, on l'enlève pour faire au plus simple. Et on teste vraiment tout le matériel. Donc il faut que le matériel que l'on prenne, on soit sûr vraiment de l'utiliser. Si je prends l'exemple, par exemple, des masques que l'on met autour de ses yeux, c'est extrêmement important pour éviter une gelure de la cornée ou éviter une gelure aux joues, forcément. Maintenant, dans ces régions-là, il arrive que le masque se couvre de buée, se givre. Tout cela dépend du vent, dépend de type d'effort, ça dépend des jours. Si vous portez trop de masques dans votre traîneau, dans ce qu'on appelle la poulka, le risque, c'est que ce soit beaucoup trop lourd, donc ce n'est pas forcément très pertinent. Si vous n'en portez pas assez, ça veut dire qu'à un moment donné, vous marchez sans masque. Et là, pour le coup, il y a un risque de gelure de la cornée. En plus, la lumière est très forte dans ces régions, donc tout cela doit être finalement testé en entraînement, au point qu'on sait exactement ce que l'on doit prendre. Et en général, quand on part sur des longues expéditions, c'est parce qu'à force d'entraînement, on sait exactement que là, on est prêt pour partir. Il faut passer par certaines étapes.
Donc la préparation, elle est vraiment primordiale.
La préparation, elle dure plusieurs années et elle est essentielle, oui.
L'expédition donc, a duré 74 jours, ce qui t'a permis d'obtenir le Guinness World Record de la plus longue expédition à ski sans voile de traction réalisée par une femme en Antarctique. Est-ce que c'était l'objectif ou est-ce que ça a été une récompense supplémentaire ?
Ce n'était absolument pas l'objectif. Pour moi, l'objectif, c'était de parcourir l'Antarctique. Donc je voulais déjà atteindre le pôle sud géographique. Et puis ensuite revenir sur les côtes du continent, déjà pour des raisons financières, parce que ça coûte moins cher aussi, parce que quand on est récupéré au pôle sud, c'est un peu plus onéreux. Et puis il s'est trouvé que j'ai fait plus de kilomètres que ce que je devais faire, puisqu'initialement je devais faire une traversée de 1800 kilomètres. Et un partenaire financier m'a lâché à quelques semaines du départ de l'expédition. Donc j'ai été obligée de contracter un emprunt. Cet emprunt n'a pas été suffisant pour boucler le budget, donc j'ai été obligée de modifier tout l'itinéraire. Donc ça a été quelque chose d'assez compliqué en termes de logistique. Et cet itinéraire m'a amenée à faire 2045 km, de manière à pouvoir partir d'un point de la côte et retourner sur un autre point de la côte. Tout cela de manière à pouvoir être plus proche de base. Donc ces points-là étaient plus proches de base, qui permettaient de diminuer les coûts de transport logistique. Et au final, j'ai fait 2045 km, ce qui est aujourd'hui un record du monde, qui l'est toujours, 6 ans après. Mais ce n'était absolument pas l'objectif. Pour moi, je voulais aller en Antarctique, je voulais découvrir cet univers. Je n'avais pas pour objectif de faire un record, et j'espère bien que d'autres féminines pourront aller aussi sur ce continent et réaliser peut-être des performances supérieures.
Et sur ces 74 jours, si tu devais ne garder qu'une seule image ou qu'une seule anecdote, laquelle ce serait?
Je crois que l'image la plus belle, c'était le premier jour, parce que j'ai survolé le continent antarctique à bord d'un bimoteur. Et là, j'ai pris conscience de l'immensité de la tâche à accomplir. Je voyais des crevasses partout sur le continent, des vagues de glace qui peuvent faire 50 cm, 1 mètre de hauteur, des vagues de glace qu'il faut contourner. Parfois, il faut les franchir au risque de casser les skis parce qu'elles sont trop nombreuses, donc le contournement n'est pas possible. Je voyais des montagnes aussi, et une très très grande immensité et une très grande hostilité, mais en même temps une beauté qui est absolument indescriptible, enfin, quelque chose de juste somptueux, parce qu'on est habitué au blanc chez nous en France, mais on est plutôt habitué à la verticalité. Et là-bas, il est question d'horizontalité, c'est-à-dire il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas de fin. Et c'était la première fois que je voyais une course aussi longue, sans fin en fait, parce que tous les jours vous avancez et la ligne d'arrivée n'arrive jamais. C'est ce que dit Ranald Messner dans son livre. Il a parcouru l'Antarctique en 1989 avec un kiteski, et disait que tout ce qui est difficile dans cette région-là, c'est qu'il faut marcher, marcher, marcher. On ne voit jamais le sommet en fait. C'est ça qui est très particulier, et c'est cette image-là que je garde aussi, parce que j'ai dit au revoir aux personnes de la base. Et tout le monde pleurait, je pleurais aussi, et je savais que c'était probablement l'une des plus grandes courses de ma vie, en fait, à ce moment-là.
Merci pour ce partage, c'est vraiment... ça fait rêver, et en même temps, on se dit que c'est difficile à imaginer.
C'est difficile, effectivement. J'ai pourtant écrit, j'ai écrit un ouvrage juste après cette expédition, et j'ai écrit quelques années plus tard aussi, On est tous aventuriers et en mouvement. Je reviens sur cette expédition à travers l'Antarctique, mais il y a des choses sur lesquelles il est difficile effectivement de mettre des mots, parce que c'est très fort, et on est peu à le partager, donc on n'a finalement pas l'occasion d'en parler si souvent que ça. Ça reste dans notre tête, mais on ne peut pas vraiment en parler tous les jours, parce que ce n'est pas une expérience forte que beaucoup vivent. Donc on ressent aussi une forme d'isolement, et enfin, on garde un souvenir très fort en fait dans la tête.
Et il y a de nombreux aventuriers justement qui publient des livres à la suite de leur expédition. Est-ce que tu considères que l'écriture fait partie du métier, et que le voyage se termine une fois que la dernière lettre du livre a été écrite?
Je trouve que c'est intéressant, quand on va dans ces univers, de pouvoir écrire. Déjà pour pouvoir décrire ce que l'on y voit. On parle beaucoup de réchauffement climatique en ce moment. C'est l'une des plus grandes aventures, je pense, de notre siècle. C'est important, je pense, de pouvoir rapporter des images, de pouvoir écrire, parce qu'on est peu nombreux à aller dans ces univers. Et ça me semble fondamental. Après, j'ai aussi à cœur de transmettre sur l'audace, l'engagement, la persévérance, le fait qu'on peut atteindre ses objectifs à force d'y croire, grâce à une très forte motivation sincère. J'appelle la motivation sincère dans mon dernier ouvrage cette petite voix intérieure qui nous fait vibrer, et ce pourquoi on est fait en fait, c'est-à-dire qu'on est tous différents, on a tous quelque chose qui nous fait vibrer, encore faut-il le trouver, et quand on le trouve, c'est cette motivation sincère qui nous mène le plus loin possible, qui nous aide à franchir les obstacles. Donc c'est ça aussi que j'ai à cœur de transmettre. Donc c'est vrai que beaucoup d'aventuriers, beaucoup d'explorateurs écrivent, je pense pour toutes ces raisons, parce qu'ils ont atteint certains objectifs et qu'ils ont envie de faire en sorte que d'autres atteignent aussi leurs objectifs. Ils ont envie de leur dire allez-y, croyez en vos rêves, restez audacieux et surtout acceptez de sortir de la norme et parfois de déplaire parce que vos projets seront complètement fous, mais si vous y croyez, c'est déjà énorme et allez-y coûte que coûte. Donc ça, ce sont des messages que j'ai à cœur de transmettre. Après, j'ai aujourd'hui une très forte passion pour l'écriture, au-delà même des aventures que je vis sur le terrain. Et je l'ai ressenti quand j'ai écrit « On est tous aventuriers », je l'ai ressenti encore plus quand j'ai écrit « En mouvement ». Donc c'est aussi une passion en tant que telle, une activité en tant que telle pour moi aujourd'hui. Et je crois aussi que, à titre personnel, si on sort de la dimension de partage, je crois que je vais plus loin aussi dans mon apprentissage en mettant des mots, en essayant de mettre des mots sur ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que je pense qu'on vit beaucoup, on apprend beaucoup sur soi et sur le monde quand on change, quand on sort de sa zone de confort, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire jusqu'à présent en allant vers le sport de haut niveau, vers le sport aventure, mais aussi par le passé en allant vers d'autres domaines qui étaient très éloignés de l'environnement dans lequel j'ai grandi plus jeune. Mais je crois qu'on passe une étape supplémentaire encore quand on peut y revenir par la réflexion, le questionnement et l'écriture. Parce que ça veut dire qu'on passe des heures, des journées, c'est très chronophage l'écriture, à repenser à ces expériences et en essayant de comprendre pourquoi telle expérience a été un échec ou au contraire un succès, pourquoi on a réagi de telle ou telle manière lorsque l'on a rencontré telle situation. Donc ça nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la connaissance de soi et la connaissance du monde. Donc aujourd'hui, l'écriture, c'est pour moi vraiment une activité à part entière et parfois ça me prend plusieurs semaines, plusieurs mois que je consacre à ça. Et encore récemment, j'étais accidentée, donc j'ai dû mettre le sport de côté et j'ai consacré du temps à l'écriture de En mouvement.
Et justement, ce livre En mouvement qui est sorti là il y a quelques mois, de quoi est-ce que tu parles à l'intérieur ?
Alors, je parle du mouvement, non pas uniquement le mouvement physique et le fait de courir, par exemple, mais aussi le mouvement intérieur, c'est-à-dire le fait d'aller vers ses rêves. Aller vers ses rêves, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, ça nous amène à nous sortir de notre zone de confort, parce qu'on est on évolue dans un environnement. Et puis, on a un rêve qui se trouve dans un autre environnement, donc ça veut dire de redevenir aventurier, parce qu'on est tous aventuriers, c'est ce que je dis dans « On est tous aventuriers », le précédent ouvrage. Ça veut dire aller vers l'aventure, donc sortir de sa zone de confort. Au début, on a l'impression que l'on va tomber à chaque pas, parce qu'on ne connaît pas, on est très curieux, on est un peu déboussolé dans cet environnement qui est complètement nouveau, complètement inconnu pour nous. Puis au fur et à mesure de cette avancée sur ce chemin d'aventure, on apprend à maîtriser les codes, on rencontre des personnes qui ont déjà évolué dans cet univers, on apprend les codes, on maîtrise de plus en plus, et là on est capable de repousser ses limites et d'aller plus loin, et parfois même de repousser les limites humaines et réaliser parfois des records, si on parle du sport de haut niveau, du sport aventure. Et ça, c'est ce que j'appelle l'exploration, c'est-à-dire quand aller là où jamais personne n'est allé. Et tout ça, c'est ce que j'évoque dans le livre. Donc, je parle de ces différentes étapes dans le chemin d'aventure. D'abord, le fait de trouver sa motivation sincère, se questionner, prendre du temps pour soi, mais aussi accepter parfois d'être en dehors de la norme pour pouvoir la trouver. Parce que si on écoute toutes les injonctions du quotidien, on aura tendance à faire ce que les autres font et non pas à écouter cette petite voix intérieure. Puis après, je parle de persévérance. Persévérance, malgré ces doutes qui nous assaillent absolument tous les jours. On me parle souvent des doutes, mais pour ma part, j'en ai vraiment tous les jours, même si je m'aventure en dehors de ma zone de confort. Persévérer malgré les obstacles que j'appelle les contretemps. Persévérer malgré le temps long, parce qu'il faut beaucoup de temps pour atteindre ses objectifs. Et puis j'évoque la discipline, la répétition et la faculté d'adaptation, puisque c'est, je crois, le cœur de l'activité du sportif de haut niveau, faire en sorte de s'adapter pour pouvoir réaliser une performance. Mais en réalité, l'adaptation, elle est dans la vie de tous les jours. On s'adapte au froid, on s'adapte à nos vies professionnelles qui sont bien souvent très prenantes. Mais finalement, l'être humain parvient à s'adapter à ce type de situation. Même quand il est extrêmement stressé, il finit par s'adapter. On s'adapte à tout ce que l'on vit. On a tendance souvent à l'oublier. finalement à adapter tout l'environnement autour pour avoir plus de confort, alors qu'on est capable d'adaptation et au final on utilise notre génie parfois pour adapter cet environnement autour de nous plutôt que pour s'adapter nous-mêmes à cet environnement. Et ça, j'en parle aussi beaucoup, j'y reviens, ce qui m'amène à parler aussi des questions environnementales, puisqu'elles ont forcément un lien avec ce sujet.
Et ces livres, où est-ce qu'on peut les retrouver?
Alors, on peut retrouver « On est tous aventuriers et en mouvement » en librairie, dans toutes les librairies, et puis aussi sur les sites comme Cultura ou la Fnac ou De Citre, Amazon, voilà, en ligne. J'ai aussi ouvert une boutique en ligne qui s'appelle Tighter. Donc plusieurs sportifs de haut niveau sont référencés sur cette boutique. Et tous les profits sont reversés à l'association Petit Prince qui réalise les rêves d'enfants malades. C'est une association que je soutiens depuis de nombreuses années. À chaque fois que je pars en expédition, je lève des fonds pour cette association. Et aujourd'hui, quand j'interviens dans différents événements, y compris dans les écoles, je lève aussi des fonds pour l'association. Et donc, les livres sont aussi vendus sur le site Tighter et j'ai participé récemment aussi à l'élaboration d'autres ouvrages. Un ouvrage qui va sortir au mois de novembre qui s'appelle « Muscler votre état d'esprit » de Isabelle Proust et qui se trouve également sur cette plateforme et puis d'autres livres dans lesquels je parle d'expédition polaire mais aussi d'audace et d'engagement.
Bon, le deuxième fait marquant que je souhaiterais aborder, c'est le World Marathon Challenge de 2019. Une course sur une semaine avec un marathon par jour sur les 7 continents différents, donc Antarctique, Afrique du Sud, Australie, Dubaï, Espagne, Chili, États-Unis. Pourquoi ce défi fou ?
Alors pourquoi ce défi ? Déjà parce que j'aime énormément l'Antarctique, donc le fait que cette compétition démarre en Antarctique, c'était pour moi important. Ensuite, c'est une compétition internationale à laquelle participent des athlètes du monde entier, notamment des athlètes élites. J'ai eu la chance de courir avec Michael Wardian cette année-là et c'était pour moi un très grand plaisir. C'est un très grand ultra-fondeur aux États-Unis et c'était un plaisir de pouvoir courir à ses côtés. J'ai participé aussi à cette épreuve parce qu'elle m'a amené à sortir de ma zone de confort et c'était pour moi un moyen de préparer aussi les championnats du monde d'ultra-fond que j'ai couru en fin d'année 2019. Pourquoi ? Parce que cette épreuve consistait à courir donc un marathon par jour pendant 7 jours, ce qui nous fait 295 km durant une semaine. Donc courir 295 km de manière fractionnée, c'est quelque chose qui est en dehors de ma zone de confort. Je suis plutôt habituée à courir des ultras d'une seule traite, donc courir plus de 200 km mais d'une seule traite. Là, en le fractionnant, ça voulait dire aller plus vite sur chacune des épreuves. Et en plus, j'étais soumise à des conditions différentes d'un jour à l'autre, puisque j'ai été confrontée à des températures de moins 20, moins 30 degrés en Antarctique, puis le lendemain à 35, 40 degrés à Cape Town, également au Chili, du dénivelé parfois. J'ai couru la plupart des courses la nuit. Et donc, le fait d'être soumise à des stress m'a permis finalement de tester un peu plus mon corps, de manière à pouvoir le préparer pour les championnats du monde. Je pense qu'on progresse aussi avec la répétition, mais pas uniquement avec la répétition, aussi parfois avec des variations, c'est-à-dire des sortes de stress, et c'est malheureusement ce que j'ai vécu aussi en début d'année avec l'accident. Je pense que ça peut m'amener aussi plus loin, parce que ces stress que l'on vit nous amènent à nous poser des questions, nous amènent aussi à trouver des solutions pour pouvoir adapter notre corps, et on est capable du coup d'aller ensuite plus loin, parce qu'il faut savoir que quand on veut faire une performance, quand on veut atteindre un record, on va là où on n'est jamais allé, donc on est forcément soumis à un stress, ce n'est pas de la répétition. Et ce sont ces exercices, ces compétitions, ces moments de vie qui sont différents, qui vont probablement nous amener plus loin le jour J par rapport à notre record personnel. Ces kilomètres en plus, ces minutes de gagner, on va chercher cette force-là dans tous les événements qui ont été un peu plus traumatisant, un peu plus stressant, différent dans le cadre de la préparation. Donc c'est un peu ce que je suis allée chercher aussi sur les 7 marathons en 7 jours consécutifs. Et j'ai travaillé notamment avec l'INSEP et le labo Sport, Expertise et Performance, notamment Franck Brocherie, sur la faculté d'adaptation du corps à la fois au chaud et au froid. On se posait beaucoup de questions parce qu'on sait aujourd'hui comment préparer un athlète à la chaleur. C'est ce qu'on a fait notamment pour les Jeux de Tokyo. On sait aussi comment se préparer au froid. Donc ça, je l'ai vécu évidemment de nombreuses fois en préparant les expéditions polaires. Par contre, on se posait beaucoup de questions sur la faculté de préparer un athlète pour se confronter à des conditions chaudes et froides qui se succèdent simultanément durant une même course. Et ce n'est pas complètement théorique parce qu'aujourd'hui, quand on part sur un ultra trail, c'est très long. On peut rencontrer des températures très froides la nuit et puis très chaudes le jour, surtout si les courses ont lieu dans des déserts ou dans des régions où la nuit va faire très froid et le jour très chaud. Donc ce n'est absolument pas théorique, mais on avait très peu d'études sur ce sujet. Et donc c'était intéressant aussi pour les chercheurs de voir s'il était possible de s'adapter, de s'acclimater aux deux conditions en même temps. Parce que ça voulait dire s'entraîner en chambre thermique à un moment donné où on essayait aussi de s'acclimater au froid en pédalant sur un ergocycle à moins 20 degrés dans une chambre de cryothérapie, et ce n'était pas forcément évident de pouvoir s'acclimater à ces deux stress sur la même période.
Et est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type sur cette semaine, puisque dans les 24 heures il faut aussi se déplacer d'un continent à l'autre, donc tout devait s'enchaîner?
Tout s'enchaîne, c'est passé très très vite, hein. Et pour moi aussi c'était très intéressant d'un point de vue intellectuel de voir ce que cela faisait, ce rapport au temps et à l'espace, qui est complètement à l'opposé de celui que je vis en expédition. Parce qu'en expédition, c'est le temps très long. Pour faire 2000 km, il faut plusieurs semaines. On est toujours dans le même lieu et on a un rapport qui est proche de la monotonie, parce que les décors sont très semblables d'un jour à l'autre. Quand on participe au World Marathon Challenge, on fait le tour de la Terre en 7 jours et tout va très vite. Donc c'est un rapport au temps et à l'espace qui est complètement opposé. Pour une exploratrice, c'était très très surprenant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on court un marathon. À la fin du marathon, parfois on a la possibilité de se doucher, parfois non. Par exemple, après le marathon de Madrid, on a ensuite traversé l'Atlantique, mais on n'a pas eu la possibilité de se doucher. Certains marathons, comme le marathon de l'Antarctique, on n'a pas eu cette possibilité non plus, mais là c'est pour des raisons évidentes, on est sur le continent antarctique. Quand on était à Santiago, on a pu se doucher dans une salle de boxe. Il faut savoir que ceux qui y arrivent, par contre, dans les derniers, eux, n'ont pas cette possibilité-là, parce que après 6 heures, 7 heures, suite au départ du marathon, il faut repartir de manière à pouvoir arriver pas trop tard au départ du marathon suivant, de manière à pouvoir tout faire sur 7 jours. Donc le défi, cette compétition a vraiment pour objectif de tout faire en 7 jours, ce qui veut dire qu'on ne peut pas, traîner à la suite d'un marathon dans une ville. Donc il y a vraiment un degré d'urgence. Je mangeais en général à la fin des marathons et puis 4 heures avant le marathon suivant. Donc je prenais toutes mes heures de repas en fonction des heures de marathon. Mais là aussi, on avait un plan bien précis, enfin, en tout cas je l'avais élaboré, et puis il a fallu le réadapter au jour le jour, puisque les horaires ensuite changent. Le marathon en Antarctique n'a pas pu démarrer à l'heure prévue, parce que les conditions météo en Antarctique sont parfois compliquées. C'est d'ailleurs pour cela qu'on commence par le marathon en Antarctique, hein, parce que s'il est retardé, il faut pouvoir ensuite retarder l'ensemble des marathons de façon à pouvoir tout faire en 7 jours. Mais tout ça pour dire qu'il a fallu s'adapter chaque fois au jour le jour, y compris pour les ravitaillements pendant les courses. Quand j'étais dans l'avion, je revoyais tous mes ravitaillements pour la course suivante, parce qu'on apprenait parfois que la course ne pourrait pas avoir lieu telle qu'elle avait été prévue, avec tant de boucles, mais que les boucles, enfin, il y en aurait soit plus, soit moins. Donc il fallait tout réadapter. C'est vraiment, je pense qu'on est, vraiment amené à faire preuve d'adaptation dans cette compétition par rapport à une compétition tels que le marathon de Paris ou un championnat de France, où on sait en général quelles sont toutes les réglementations en amont. Donc on peut préparer bien avant sa logistique, son ravitaillement. Il faut savoir que pour toutes les courses longues, la question du ravitaillement, elle est évidemment fondamentale. Là, il fallait s'adapter vraiment pour chaque épreuve un peu en dernière minute. Et puis on n'a plus aucune notion du temps quand on part sur ce type de compétition. On sait qu'il fait nuit ou qu'il fait jour, mais on n'a aucune idée de l'heure qu'il est là où on se trouve. Est-ce qu'il est minuit? Est-ce qu'il est 3 heures du matin? On n'en sait rien parce qu'on est complètement désynchronisé. Donc on n'a plus de fuseau horaire. On n'a plus vraiment de rapport classique au temps.
Bon, pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions en lien avec ton actualité. Tu es à Font-Romeu, qu'est-ce que tu prépares ?
Alors je suis à Font-Romeu pour plusieurs raisons. J'y étais déjà cet été pour préparer les championnats de France de 100 km. J'ai terminé vice-championne de France à Amiens au mois d'octobre. Et là, je suis revenue à Font-Romeu pour principalement de la réathlétisation, continuer ma rééducation, puisque j'ai été accidentée en début d'année. J'ai eu un accident sur Paris, j'ai été renversée par une trottinette, fracture de la rotule. Donc plusieurs semaines d'immobilisation, plusieurs mois sans course à pied. Donc le retour à l'ultra-fond est très long pour moi. J'ai voulu commencer par un 100 km de manière à y aller progressivement. Là, en fin d'année, je vais partir sur des distances qui n'ont rien à voir avec mes distances de prédilection, marathon, 10 km. Je ferai cela après mon stage à Font-Romeu. Je travaille avec Nicolas Bourrel et Valérie Audet ici, notamment pour tous les aspects de rééducation, réathlétisation. On travaille aussi beaucoup en chambre hypoxique et ce sont des entraînements que j'affectionne tout particulièrement. Et puis je me projette en 2022, donc je reviendrai à nouveau à Font-Romeu, là pour le coup, pour un stage de préparation pour des compétitions internationales. Je me projette sur les championnats du monde de 100 km qui auront lieu à Berlin et aussi les championnats d'Europe d'ultra-fond, donc de 24 heures, qui auront lieu à Vérone. Donc là, j'aurai à nouveau des stages qui seront beaucoup plus longs encore.
Et est-ce que tu te considères plus aventurière ou athlète ?
Les deux.
Et qu'est-ce que tu recherches au travers de ces expéditions ?
J'aime la vie. La vie, elle est très courte. Et ça, j'en ai conscience depuis toute petite. On me demande souvent si cette prise de conscience est liée à un accident ou à un événement grave. J'ai vécu plusieurs accidents en expédition, notamment il y a 9 ans au Groenland, un accident grave et j'ai cru que c'était la fin. Mais pour autant, ce ne sont pas ces accidents qui m'ont amené à prendre conscience que la vie est précieuse, parce que lorsque j'étais sur ces chemins d'aventure et lorsque j'ai vécu ces accidents, j'en avais déjà conscience et j'avais déjà cette façon de vivre. Donc je crois que c'est en moi depuis toujours. J'ai cette conscience que la vie, elle est très, 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 très courte. Et je crois que pour beaucoup, on en a pris conscience encore plus avec la pandémie, avec la Covid. Et ça, c'est quelque chose qui m'habite et qui fait que j'ai envie de vivre pleinement. Et donc, quand j'ai une idée, j'ai envie d'aller vers cette idée. Donc, je recherche la vie. Je suis passionnée, je suis curieuse, je suis émerveillée. Je cherche à apprendre. Le jour où je n'apprendrai plus sur un chemin d'aventure, j'aurai envie d'aller sur un autre. Aujourd'hui, dans le sport de haut niveau, j'apprends tous les jours. J'apprends énormément, même quand je rencontre des contretemps comme celui de début d'année. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de rester encore sur ce chemin. Et j'aime bien aussi repousser mes limites. Donc j'aime bien travailler un sujet jusqu'à ce que j'atteigne le maximum de ce que je pense pouvoir atteindre dans un domaine. Et ça, c'est très intéressant dans le sport de haut niveau parce que je crois que c'est quand même le cœur de cette activité d'aller repousser ses limites et d'aller explorer le maximum de ce que l'on peut atteindre. Et dans les contrées désertes, au cœur de l'Antarctique ou au cœur de l'Arctique, c'est la liberté, c'est l'intensité, c'est la magie, c'est la vie. C'est être au plus près de la nature, c'est être au plus près de soi, c'est, C'est une déconnexion totale, c'est être en dehors de la norme, être ailleurs en fait. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Hein.
Dernière question, une aventure ou une course que tu rêverais de faire?
Il y en a trop, je ne peux pas répondre à cette question. Il y a beaucoup, j'ai beaucoup beaucoup d'idées en tête. En fait, ce que je fais, c'est que je vis souvent avec des moments de vie, parce que je sais qu'on ne peut pas tout faire en même temps. On ne peut pas tout concilier, même si on a cette forte injonction aujourd'hui de tout faire en même temps. Ce n'est absolument pas possible. Donc je laisse dans un coin de la tête des projets de livres. J'ai énormément de projets éditoriaux en ce moment et je les laisse dans un coin de la tête. J'ai des projets de compétition dans des disciplines différentes et qui ne peuvent pas se préparer sur la même saison parce que les qualités demandées sont trop différentes. J'ai des projets de sport-aventure, j'en ai encore beaucoup, que je ne peux pas mettre en œuvre tout de suite parce que, étant lancée sur des compétitions dans le sport de haut niveau, ce n'est pas nécessairement compatible sur la même saison parce qu'on ne peut pas atteindre un pic de forme quand on rentre d'une expédition et qu'on pèse 39 kilos, comme c'était le cas après l'Antarctique. Donc, tous ces projets font que. Tous ces projets m'animent au quotidien et donc c'est difficile de répondre à la question en fait.
Très bien, je te remercie Stéphanie Gical de m'avoir consacré du temps pour cette interview.
Merci à toi.
Avant de se quitter, s'il ne faut retenir qu'une seule chose de cet entretien, qu'est-ce que ce serait?
C'est la passion de la vie, je crois.
Et si des personnes veulent te contacter ou te poser des questions, est-ce qu'elles peuvent le faire?
Elles peuvent me suivre sur LinkedIn. Je suis très active sur le réseau LinkedIn. C'est un réseau sur lequel je poste régulièrement, en général toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je ne poste pas tous les jours parce que voilà, j'aime bien aussi être parfois un peu déconnectée. J'aime bien partager sur ces notions de persévérance, d'audace, d'engagement, de motivation sincère. Elles peuvent me suivre aussi sur Facebook. Elles peuvent m'écrire également. Alors je ne garantis pas de répondre à toutes les à tous les messages parce que j'en reçois vraiment beaucoup, mais en tout cas j'aurai à cœur de pouvoir accorder l'attention à toutes les personnes qui me suivront et qui m'écriront.
Bon bah je mettrai les liens pour t'écrire et puis les liens de tes livres aussi dans les notes de l'épisode.
Merci.
Merci beaucoup à toi et puis à bientôt.
À bientôt.
Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode et qui ont écouté en intégralité cet entretien avec Stéphanie Gicquel. S'il vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je rappelle que je publie chaque soir Sport Actu, un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas à aussi me suivre sur Instagram, @sport.kylian_tanguy. J'y publie des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast. Interview sport à la rencontre du monde sportif.